Et on disait, mais comment est-ce qu'on peut concilier l'enseignement de Paul et de Jacques? Paul semble dire qu'on est sauvé par la foi, et Jacques semble dire qu'on est sauvé par les œuvres. Mais en fait, et Luther aussi avait en fait cette difficulté, puisqu'il a appelé l'épître de Jacques une épître de paille. Mais il l'a quand même accepté. Et en fait, si vous lisez attentivement ces épîtres, et l'épître de Jacques en particulier, vous verrez que Jacques et Paul disent exactement la même chose. Ils disent qu'on est sauvé par la foi, mais par une foi réelle, et que les œuvres sont fondamentales à la vraie foi. Non pas dans ce que les œuvres sauvent, mais dans ce que les œuvres confirment la foi. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Et la vraie foi, nécessairement, doit produire de bons fruits, de bonnes œuvres. Si quelqu'un dit avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, mais continue à vivre une vie débridée et mauvaise, eh bien, il est tout à fait légitime d'avoir des doutes quant à la réalité de sa conversion. Et donc, Paul et Jacques enseignent tout à fait la même chose. Mais chacun met un accent plus particulier, l'un sur la foi et l'autre sur les œuvres. Donc, l'Église, quand les pères de l'Église ont posé ces questions, après un temps de réflexion, pour ceux qui les avaient posés, ils ont bien réalisé qu'il n'y avait pas de contradiction. L'épître de Jude a posé un problème parce qu'il y a deux citations dans cet épître de livres apocryphes. Maintenant, pas des livres apocryphes dont on a parlé hier soir, parce qu'il y a des livres apocryphes qui se trouvaient dans la Septante, mais en fait, tous les autres livres qui n'ont pas été inclus dans le canon hébreu, on peut les appeler apocryphes. Apocryphes veut dire caché. Or, il y avait d'autres livres, par exemple l'Ascension d'Enoch et d'autres livres dont on a perdu toute trace. Parfois, on a juste une citation qui nous a été préservée dans un autre ouvrage. Et l'Épître de Jude cite deux de ces textes qui n'ont pas été reconnus comme autoritaires par le peuple juif. Et alors, certains chrétiens, ils ont dit, mais comment est-ce que Jude peut citer des textes qui ne sont pas autoritaires et normatifs? Est-ce que cet épître est vraiment inspiré par Dieu? Et puis finalement, l'Église chrétienne, elle a dit, mais bien sûr qu'on peut citer une parole d'un non-croyant, d'un païen, ou d'un croyant, mais qui n'a pas un ministère autoritaire comme les prophètes. En citant telle parole, cela ne veut pas dire qu'on accepte tous les écrits de telle parole. C'est ce que je vous ai dit hier soir. À la limite, on pourrait prendre une parole de Mao ou d'un athée, n'est-ce pas? Et cela ne veut pas dire que parce que je cite une telle parole, que j'accepte tous les écrits de cet homme. Maintenant, peut-être que Jude aurait eu meilleur temps de ne pas citer ces deux textes apocryphes, parce qu'on aurait peut-être moins discuté. Enfin, il a décidé de le faire sous l'inspiration de l'Esprit, et après quelques discussions assez courtes, l'Église a entièrement reconnu ce texte comme autoritaire. Il y a un livre que je n'ai pas mentionné ici, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse devrait être placé dans la colonne de droite, parce que l'Apocalypse, dans un premier temps, a été accepté par toute l'Église, mais au bout d'un certain temps, certains se sont dit, cette question du millénium nous paraît un petit peu suspecte. Est-ce que vraiment il y a un millénium qui doit venir après le retour de Christ. Et après certaines discussions, les chrétiens ont dit, mais en fait, la question n'est pas tellement s'il y a un millénium ou pas, mais c'est de savoir comment interpréter cette parole ou ce texte de Apocalypse 20. Et donc, c'est plus une question d'interprétation qui touche l'Apocalypse qu'une question d'authenticité. Et puis, le dernier livre du Nouveau Testament qui était discuté, c'est l'Épître aux Hébreux, parce qu'il n'avait pas d'auteur. C'est pas l'auteur n'était pas mentionné. Et les églises d'Orient, c'est-à-dire qui étaient centrées autour de la Judée, disaient, cette Épître aux Hébreux, elle vient de Paul. Et nous croyons qu'elle vient de lui, nous savons qu'elle vient de lui, parce qu'elle nous a été adressée. Alors que les églises d'Occident, centrées plutôt sous Rome, et dans cette partie du monde, disaient, ah, on ne connaissait pas, on ne savait pas que cette épître venait de Paul, il nous semble que le style un petit peu différent, l'introduction un petit peu différente, etc., et ils avaient certaines questions. Et finalement, c'est le témoignage des églises d'Orient, qui disaient avoir reçu cette épître et qu'elle venait de la part de Paul, qui a fait que finalement, cette épître a été intégrée dans le canon. Bien sûr qu'en plus des questions d'auteur, il y avait des questions aussi de contenu, et toutes ces épîtres et tous ces livres ont été reconnus aussi au niveau de leur contenu, qui était tout à fait en accord les uns avec les autres, avec la foi qui était reçue. Voilà. Alors, pour tirer en mode conclusion concernant cette partie, je dirais que dans l'Église primitive, il y avait une grande ouverture, les gens discutaient librement, les communautés disséminées dans le monde méditerranéen, dans l'Empire romain, on discutait librement, mais il y a eu, en fin de compte, unanimité concernant les 27 livres du Nouveau Testament. Et toutes les églises chrétiennes ont un canon qui est exactement identique. Alors ça, c'est quand même encourageant. On a vu que pour l'Ancien Testament, il y a un petit problème à propos des adjonctions de la Septante, mais pour le Nouveau Testament, toutes les églises ont exactement le même canon. Et il y a eu d'autres livres qui ont été écrits plus tard, qui alors ont tous été rejetés, parce qu'ils n'étaient pas directement rattachés à un apôtre. Certains de ces textes étaient de bonne qualité, comme la première épître de Clément aux Corinthiens, mais Clément n'étant pas un apôtre, on a dit, ben, c'est formidable ce que Clément a écrit, mais malheureusement, il n'était pas apôtre. Alors, on ne va pas prendre ses écrits comme normatifs. On va les étudier, il a quelque chose à nous apporter, mais ils ne vont pas être sur le même plan que les autres. Il y avait aussi la Didachée et d'autres textes qui étaient largement lus dans l'Église primitive, qui avaient une grande audience, une autorité, mais pas la même que les autres, parce que ces personnes n'étaient pas directement des apôtres ou des associés des apôtres. Et à côté de ces textes de qualité, n'est-ce pas, mais qui n'ont pas été inclus parce qu'ils n'étaient pas rattachés à des apôtres, il y a toute une série de livres qui sont généralement plus tardifs, qui prétendent venir de la part des apôtres, ou qui prétendent raconter la vie des apôtres ou du Seigneur, et qui alors ont été rejetés parce que l'Église n'a pas reconnu qu'ils étaient vraiment directement rattachés aux apôtres. Alors il y a des évangiles apocryphes, qu'on divise en général en quatre catégories. Il y a les évangiles de la nativité ou les évangiles de l'enfance. En fait, ça ferait une catégorie, il y en a trois. Parce que les deux premiers, ça forme en fait une catégorie. Ensuite, il y a les évangiles de la passion, les évangiles gnostiques. Et ensuite, il y a toute une série d'actes qui sont apocryphes. Il y a par exemple les actes de Jean, les actes de Pierre, les actes de Paul, les actes d'André, les actes de Thomas, les actes, la lettre des apôtres, mais qui est différente du livre des apôtres que l'on a. Donc toute une série de récits qui étaient intitulés actes de, et on nommait un apôtre. Et puis il y avait aussi les apocalypses, il y avait l'apocalypse de Pierre et l'apocalypse de Paul en particulier. Alors, tous ces textes, y compris les évangiles apocryphes, ce sont des textes qui donnent des compléments sur ce que les livres canoniques ne disent pas. N'est-ce pas ? Il y a toujours la curiosité populaire. Alors, on vous dit, Jésus, il est né, et puis tout à coup, il est adulte. Alors vous dites, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il était enfant ? Alors vous avez juste l'évangile de Luc, qui vous donne un tout petit récit quand Jésus avait 12 ans. Ouais, mais ça ne satisfait pas votre curiosité. Vous aimeriez en savoir davantage. Alors, parmi le peuple, il y a certaines personnes qui commencent à raconter des petites histoires sur Jésus, et finalement, ça a donné naissance aux évangiles de l'enfance. Alors, c'est tout un monde assez vaste, assez complexe, où l'on parle de cela. Alors, je vais vous lire quelques extraits, ou un extrait en tout cas, pour que vous ayez un petit goût du genre de littérature dont il s'agit. Alors, il s'agit ici d'un livre intitulé « L'évangile du pseudo-Thomas ». Parce qu'il y a un autre ouvrage qui s'intitule « L'évangile de Thomas ». Mais l'évangile de Thomas, il ne vient pas de Thomas. Et l'évangile du pseudo-de Thomas, il ne vient pas non plus de Thomas. Enfin, il y se dit. Moi, Thomas l'Israélite, je crois très utile de faire connaître à tous nos frères d'origine païenne les actions enfantines de notre Seigneur Jésus-Christ et les merveilles qu'il accomplit après qu'il fut né en notre pays. Ce petit enfant Jésus, âgé de 5 ans, jouait après un orage au bord d'une rivière. Il dirigeait des ruisselets dans des fossés et cette eau redevenait aussitôt limpide, obéissant à sa moindre parole. Ensuite, ayant pris de la terre glaise, il pétrit 12 petits moineaux. C'était un jour de sabbat. Une volée de gamins jouait avec lui. Un juif, voyant à quoi s'occupait Jésus ce jour-là, s'empressa de tout rapporter à Joseph son père. « Dis, ton fils est près de la rivière. Il a pris de l'argile, il a façonné 12 moineaux. Il se moque du sabbat. » Joseph se rendit sur les lieux. Dès qu'il aperçut son fils, il le gronda. Pourquoi te livres-tu à des activités interdites le jour du sabbat? Mais Jésus frappa dans ses mains et cria aux moineaux, « Partez !» Les oisillons déployèrent leurs ailes et s'envolèrent en pépillant. Sidérés, les Juifs s'en allèrent conter à leur chef ce que Jésus avait accompli sous leurs yeux. Cependant, le fils d'Anne, le scribe, qui se trouvait là avec Jésus, saisit une branche de saule et dispersa les eaux drainées par Jésus. Ce que voyant, Jésus se fâcha et lui dit, « Méchant, impie, insensé, quel mal te faisaient ces canaux et cette eau? Eh bien maintenant, deviens comme un arbre sec, et ne porte ni feuilles, plus ni feuilles, ni racines, ni fruits. » Aussitôt l'enfant se dessécha des pieds à la tête, et Jésus s'en retourna chez Joseph. Les parents de l'enfant desséché vinrent ramasser leur fils pleurant sur sa jeunesse. Ils l'apportèrent à Joseph et ils le blâmaient d'avoir un fils capable de ces miracles-là. On comprend les parents. Une autre fois, Jésus se promenait dans le village quand un enfant, en courant, le heurta à l'épaule. Irrité, Jésus lui dit, « Tu ne poursuivras pas ta route. » À l'instant, l'enfant s'écroula mort. À cette vue, certains s'exclamaient, « D'où sort cet enfant dont chaque parole devient immédiatement réalité ?» Les parents du jeune mort allèrent se plaindre à Joseph. Avec un fils comme le tien, tu ne dois plus rester avec nous, dans le village, ou alors apprends-lui à bénir au lieu de maudire, car il fait mourir nos enfants. Alors, l'image qui nous est donnée ici du Christ ne correspond en rien au Christ des évangiles canoniques. Et on comprend pourquoi l'Église, unanimement, a rejeté des écrits de ce genre-là. Alors, les églises de l'enfance ont été écrites pour satisfaire la curiosité. Alors, on vante souvent le miraculeux, n'est-ce pas? Jésus fait toutes sortes. Il veut une pomme, la branche est trop élevée, alors la branche va se plier, n'est-ce pas, pour que Jésus puisse prendre la pomme. Et ainsi de suite. Bon, le miraculeux, on pourrait encore l'excuser à la rigueur, mais le caractère du Christ qui est décrit ici ne correspond en rien au Christ des Écritures. Les évangiles de la nativité sont là pour satisfaire aussi la curiosité concernant la naissance de Jésus et en particulier aussi Joseph. Parce que Joseph, on ne connaît pas grand-chose sur lui. C'est pas, il est là, il est une sorte de figure, mais pas très importante, puis après il disparaît de la circulation. Alors, les évangiles, un des évangiles de l'enfance, le proto-évangile de Jacques en particulier, parle en long et large du choix de Joseph, comment Dieu a choisi Joseph pour que ce soit lui qui soit le mari de Marie, et ainsi de suite. Et puis aussi, on voulait souligner la pureté de Marie au moment de sa naissance. Et alors, ces évangiles de la naissance soulignent cela. Et l'Église catholique a tiré, n'est-ce pas, certaines de ses doctrines de ces évangiles de la nativité en ce qui concerne Marie. Et vous comprendrez mieux certains dogmes de l'Église catholique quand vous comprenez aussi ces évangiles de la nativité. Les évangiles de la Passion nous rapportent ce qui s'est passé durant la Passion, mais aussi lors de la descente du Christ en enfer. C'est vraiment mystérieux cette descente du Christ en enfer. Tellement mystérieux que l'on peut vraiment douter que ça s'est réellement produit. Parce qu'il y a quelques textes dans l'Écriture qui peuvent être interprétés comme une descente du Christ en enfer, mais peuvent aussi être interprétés autrement. Et d'une manière générale, les églises issues de la Réforme n'ont jamais cru vraiment à une descente du Christ en enfer. Cette position était défendue dans l'Église catholique, elle était inclue plus tardivement dans le symbole des apôtres, mais n'a jamais été reconnu comme tel par les réformateurs. Par exemple, il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 9, « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» C'est pas à propos des dons, peut-être que je devrais lire les versets qui précèdent, chapitre 4, verset 7, dans les Éphésiens, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Et les réformateurs ont donné plusieurs explications à ce verset, et là, je pense que la meilleure consiste à donner une autre traduction qui est possible à partir du grec, et qu'on devrait traduire ainsi. Il est aussi descendu dans les régions inférieures, non pas de la terre, mais c'est-à-dire la terre. C'est pas les régions inférieures, c'est-à-dire la terre. Et qu'on parle ici non pas d'une descente de Christ en enfer et de sa mort, mais de son incarnation. Christ qui était dans les cieux est descendu dans les régions inférieures, c'est-à-dire la terre. Et je pense que ce texte s'interprète beaucoup mieux ainsi. Et il y a quelques autres textes dans les épîtres de Pierre qui pourraient être interprétés comme enseignant une descente du Christ en enfer, mais on peut les interpréter aussi, et je crois mieux, autrement. Et je pense qu'il n'y a pas d'enseignement clair à ce sujet. Qu'est-ce que Jésus a fait entre sa mort et sa résurrection? Et pour combler ce vide, en quelque sorte, il y a les évangiles de la Passion qui viennent nous raconter toutes sortes de choses. Ensuite, il y a les évangiles gnostiques. Alors, les évangiles gnostiques, n'est-ce pas, une gnose, c'est un enseignement secret. Alors, cet enseignement secret, en général, se rapporte aux paroles de Jésus qu'il aurait prononcé après sa résurrection, pendant les 40 jours qu'il vivait sur terre. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Ça doit certainement être quelque chose de particulier, puisque c'est seulement des disciples qui ont vu Jésus à ce moment-là. Alors, si on pouvait connaître ses paroles, les autres, les paraboles, tout le monde pouvait en bénéficier, n'est-ce pas? Toutes les foules. Mais ces paroles secrètes, seulement aux disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors, pour combler en quelque sorte ce soi-disant vide, il y a des évangiles gnostiques. Et là aussi, je vous lis juste quelques extraits. C'est le début de l'évangile de Thomas, qui, on pense, date du IIe siècle, qui était redécouvert en 1946, et qui dit ceci. « Voici les paroles cachées que Jésus, le vivant, a dites et qu'a transcrites Didyme, Jude, Thomas. » Il a dit, celui qui parvient à l'interprétation de ces paroles ne goûtera point la mort. Bon, ça paraît déjà un petit peu étrange. Jésus dit, et après il y a plusieurs paroles comme ça qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4, qui sont isolées les unes des autres. C'est un petit peu le style des proverbes, différentes paroles qui se suivent. Alors, 1, Jésus dit, que celui qui cherche ne cesse point de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Lorsqu'il trouvera, il sera ému. Et lorsqu'il sera ému, il admirera. Et il régnera sur l'univers. 2. Jésus dit, si ceux qui vous entraînent vous disent, voici le royaume dans le ciel, alors les oiseaux du ciel y seront avant vous. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons y seront avant vous. Mais le royaume est au-dedans de vous et il est au-dehors de vous. 3. Lorsque vous vous connaîtrez, alors on vous connaîtra. Et vous saurez que c'est vous les fils du Père qui est vivant. Mais si vous ne vous connaissez point, alors vous serez dans un dénuement, et c'est vous qui serez dans le dénuement. Jésus dit, que le vieillard chargé de jour ne tarde pas à interroger le petit enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et il vivra. Car il apprendra que beaucoup de premiers seront derniers, et ils seront un seul. 5. Jésus dit, connais ce qui est en face de ton visage, et ce qui t'est caché se révélera à toi, car rien de caché ne manquera d'être révélé. 6. Ses disciples l'interrogèrent, et lui dirent, tu veux que nous jeûnions? Quelle est la manière dont nous prierons, dont nous ferons le monde, et quelle façon de se nourrir respecterons-nous? Jésus dit, ne dites point de mensonge, et ce que vous avez en haine, ne le faites point. Car toutes ces choses sont manifestes à la face du ciel. rien de ce qui est caché ne manquera d'être révélé, et rien de ce qui est dissimulé ne tardera à être publié. Et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on reprend, qu'on pique ici et là des paroles bibliques, et puis on les change un tout petit peu. Parfois l'enseignement peut passer, parfois il nous heurte, parfois on ne comprend pas. Mais enfin, c'est ce genre de paroles que l'on trouve dans ce genre d'évangiles, les évangiles gnostiques. Et puis, pour terminer, encore un mot sur les actes apocryphes, et je m'arrêterai là. Donc il y a plusieurs types de livres, les actes de Jean, de Pierre, de Paul, d'André, de Thomas, entre autres. Et je vais vous lire un extrait des actes de Pierre. Et à nouveau, ces livres sont remplis du miraculeux. Parfois, le miraculeux est presque, acceptable. Parfois, alors, il est tout à fait d'un autre caractère que ce qui nous est décrit dans les évangiles. Et d'une manière générale, les évangiles sont très sobres quant aux miracles. C'est le sens des miracles qui est tout aussi important que le détail qui est donné. Alors, à un moment donné, il y a un magicien, Simon, qui est connu déjà dans les livres bibliques, et ce Simon va jusqu'à Rome. Et il fait toutes sortes de prodiges au point de détourner de la foi la plupart des croyants. Il y a juste quelques fidèles qui restent et qui disent « Ah, mais c'est une catastrophe, la foi maintenant est combattue avec force par ce Simon le magicien. » Et alors la petite communauté de fidèles prie pour que quelqu'un vienne les aider. Et finalement, Pierre est envoyé de Jérusalem jusqu'à Rome pour aider et, contrer ce magicien. Et Pierre, à son tour, va faire toutes sortes de miracles. Les uns plus extraordinaires que les autres. Alors là, je vais juste lire un petit passage qui concerne un chien. Cependant, Simon, dans la maison, parlait ainsi à un chien. Parce qu'en fait, Pierre, maintenant, est à la porte de la maison et il va confronter Simon. Alors, Simon a peur de Pierre parce qu'il réalise que Pierre est quand même plus fort que lui. Et puis, il aimerait l'arrêter. Alors, il va parler à un chien en espérant que le chien soit assez fort pour arrêter Pierre. Mais voyez ce qu'il va faire. Donc, Simon parlait ainsi à un chien. « Dis à Pierre, » donc il lui demande de parler, « Dis à Pierre que je ne suis pas dans la maison. » Le chien lui répondit en présence de Marcellus. « Oh, le plus grand des scélérats !» Donc il appelle Simon le plus grand des scélérats, des effrontés et des ennemis de tous ceux qui vivent et croient dans le Christ Jésus. Voici qu'est envoyé vers toi un animal muet qui a reçu la parole humaine pour te confondre et prouver ton imposture et tes mensonges. Tu as réfléchi pendant tant d'heures pour dire « Dis que je ne suis pas ici. N'as-tu pas honte d'élever ta voix faible et inutile contre Pierre, le ministre et l'apôtre du Christ, comme si tu pouvais te cacher de lui qui m'a ordonné de te parler en face. Et cela non pour toi, mais pour ceux que tu séduisais et conduisais à leur perte. Aussi seras-tu maudit, ennemi et corrupteur de la voie de la vérité du Christ, qui punira par le feu éternel les iniquités que tu as commises, et tu seras dans les ténèbres extérieures. Et après avoir dit ces mots, le chien s'en alla. Aussi la foule le suivit, et Simon resta seul. Le chien parvint jusqu'à Pierre, assis avec la foule, venue pour voir sa face. Et le chien rapporta ce qu'il avait fait avec Simon. Et le chien dit ceci à l'ange et apôtre du Dieu vrai. Pierre, tu auras un grand combat contre Simon, ennemi du Christ, et de ses serviteurs. Mais tu convertiras à la fois beaucoup de ceux séduits par lui. À cause de cela, tu recevras de Dieu la récompense de ton œuvre. Après avoir parlé ainsi, le chien tomba au pied de l'apôtre, Pierre, et rendit l'esprit. Bon, on pourrait continuer, mais enfin, je crois que ça suffit pour vous montrer un petit peu le genre de ces textes qui, à nouveau, permettent de comprendre parfois certains tableaux qui ont été peints dans les églises, même à la Renaissance, et qui illustrent certaines scènes bibliques. La plupart des idées qu'on trouve dans ces tableaux viennent de ces écrits apocryphes. Et donc, je répète que toute l'Église, de manière unanime, à part peut-être quelques petites sectes ici et là, temporairement et isolément, toute l'Église a rejeté tous ces textes. Alors que, de l'autre côté, ils ont accepté à l'unanimité, on pourrait dire, les textes qui sont inclus dans le canon du Nouveau Testament. Alors, je m'arrête là, et pour vous laisser le temps de poser peut-être quelques questions. Si quelqu'un veut passer la nuit à lire d'autres récits, je peux lui prêter. J'ai plusieurs livres avec moi que j'ai tirés de notre bibliothèque. Toute bonne bibliothèque, c'est-à-dire qui contient un certain nombre de points de vue et d'enseignements historiques, contient des évangiles apocryphes. À la bibliothèque MMIRUS, on en a plusieurs. Vous pouvez aller à la bibliothèque universitaire à Dorigny et vous en trouverez aussi un certain nombre. Donc, ils ont été traduits et sont à disposition. Mais ils sont peu. Il me semble que le danger vient plutôt de gens qui disent « Ah, oui, mais alors l'Église, n'est-ce pas, ce sont des conciles, il y a une autorité qui a imposé au peuple chrétien de croire certaines choses, mais sans doute que la vérité se trouve dans ces livres apocryphes qui ont été rejetés. » N'est-ce pas? Puis il y a toujours des gens qui sont un petit peu friands du mystérieux et du caché, ils sont très suspects de tout et disent c'est l'Église qui a voulu tout cacher, et puis il faudrait lire ces livres-là. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas une autorité qui a décidé que ces livres étaient normatifs, c'est la communauté. Et c'est clair qu'à un moment donné, il y a eu des conciles. Et que ces conciles ont dit, oui, nous voulons confirmer ou réaffirmer que ces livres sont bien normatifs parce qu'il y avait des hérésies. N'est-ce pas? La plupart des doctrines sont venues comme ça. Le peuple croyait ces choses, et puis il y a eu quelques hérétiques qui sont venus, et cela a forcé l'Église à prendre position. Et dire, non, nous croyons ceci, et de le mettre par écrit. C'est vrai aussi aujourd'hui dans une communauté. Vous n'avez peut-être pas toujours un article de foi sur chaque point, peut-être sur le New Age, sur le Nouvel Âge ou comme ça, mais peut-être si un jour vous sentez qu'il y a une certaine hérésie qui prend racine dans l'Église, vous dites non, il faut prendre position et on va mettre cette fois, pour la première fois, un texte par écrit pour dire qu'on n'accepte pas ces points, ces croyances, mais par contre nous croyons ceci. Et c'est comme ça que la plupart des doctrines se sont développées. C'est poussé par les hérétiques, en quelque sorte, l'Église a affirmé ce qu'elle croyait depuis longtemps. Et c'est toujours facile de dire, « Ah, mais Jésus a encore fait cela, il est allé partout ailleurs, il est allé jusqu'en Inde. » Mais à quel moment? Qui est là pour témoigner de ces choses? Les gens qualifiés, les gens qui étaient ses disciples, ses apôtres, ils n'ont rien écrit à ce sujet. Lui, la première génération de chrétiens. Alors, tous ces textes sont beaucoup plus tardifs. Ils datent du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Et, alors, il faut donner la priorité à ceux qui sont proches des événements. Je me suis quand même documenté, renseigné, j'ai lu certains de ces textes. Mais il faut dire que quand on en a lu un ou deux ou trois, eh ben, ça se répète joliment. Et puis, il suffit de faire... travaillez votre imagination, et puis vous arriverez encore à en écrire d'autres, n'est-ce pas? Puis vous pourrez peut-être les enterrer dans le sable, à quelque part en Israël ou en Égypte, ou je ne sais pas où, et puis après organiser une expédition, puis dire, ah, voilà, j'ai retrouvé un livre très ancien, et puis vous serez célèbre. Bien sûr qu'on peut toujours imaginer de faire quelque chose comme ça. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Des gens ont imaginé des choses... Mais on voit quand même que l'imagination est assez loin et déforme le message des textes sacrés. Et je dirais, je trouve ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les livres canoniques sont extrêmement sobres en ce qui concerne le miracle, n'est-ce pas? On souligne les miracles. Dieu est tout-puissant, il a fait des choses étonnantes, mais on reste extrêmement sobre sur ces miracles. Parce que l'important est souvent le message qui sort de ces miracles. Je vais prendre la deuxième question en premier parce qu'elle est plus simple à répondre. Pourquoi est-ce qu'on a divisé les différents livres de la Bible, que ce soit l'Ancien ou du Nouveau Testament, en chapitres et en versets? Parce que cela n'était pas le cas à l'origine. Alors, cette division des chapitres et des versets est assez tardive. Je crois qu'elle date du 10e, 11e, 12e siècle après Jésus-Christ. Et on l'a fait pour des questions pratiques. Parce qu'on dit, Jean a dit cela, puis vous dites, où? Alors c'est plus facile de dire Jean 14, 2 que de dire à peu près un petit peu plus que la moitié de l'évangile, c'est pas, ou les 7 huitièmes de l'évangile, je ne sais pas trop quoi. C'est plus facile d'avoir des références. Alors on est très content d'avoir ces références, cette division en chapitre en verset, mais dites-vous bien que cette division n'est pas inspirée au même titre que le texte. Et parfois quand vous cherchez à comprendre le plan d'un livre, la pensée de l'auteur, vous ne serez peut-être pas d'accord avec les sous-titres qui sont donnés, pour commencer, et puis des fois la division en chapitres. Et vous dites, non, là l'auteur, ou celui qui a fait la division, n'aurait pas dû la faire à cet endroit, mais à un autre endroit. Mais c'est quand même utile. Et puis la première question concernait la fin de l'évangile de Marc. Vous savez qu'à partir du verset 9, sauf erreur, jusqu'au verset, jusqu'à la fin, les derniers versets, sont mis entre parenthèses dans la plupart des éditions, des versions modernes. Et on vous dit, certains manuscrits anciens ne contiennent pas ces versets. Alors, là, on ouvre tout un chapitre, qui est le chapitre de la critique textuelle. Parce que les documents de l'Ancien et du Nouveau Testament, les originaux, ne nous sont jamais parvenus. Parce que le support matériel était tout simplement, se détruisait avec le temps. Et il fallait, pour préserver le texte, il fallait le recopier. Simplement, quand vous recopiez, parfois même si vous portez la plus grande attention, lorsqu'un texte, le même texte est recopié 10 fois, n'est-ce pas ? Parfois, il y a une petite différence qui entre dans le texte. Et aujourd'hui, quand on compare tous les manuscrits, par exemple, sur l'évangile de Jean, chapitre 3, on constate qu'il y a quelques endroits où les manuscrits ont quelques variantes. On appelle ça des variantes. Moi, j'appellerais ça des zones d'incertitude. Ces variantes sont en général très limitées. Elles touchent jamais le sens fondamental du texte. Parfois, c'est, n'est-ce pas, à la place du royaume de Dieu, on a le royaume des cieux. Ce serait une des variantes qu'on trouve parfois. Il y a certaines variantes qui contiennent différents pronoms grecs, mais qui tous se traduisent de la même manière en français. La plupart des variantes sont vraiment minimes. Et dans beaucoup de Bibles, les variantes importantes sont indiquées en bas de page. On dit, dans certains manuscrits anciens, on a, et puis on vous donne une deuxième lecture. Alors vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans le texte, mais c'est soit la première lecture, soit la deuxième. Parfois, il y a trois lectures, ou comme ça. En général, ça se limite à deux lectures. Or, pour l'évangile de Marc, la fin de cet évangile ne se trouve pas dans tous les manuscrits. Alors, est-ce que la fin faisait partie de l'original ou pas ? Il y a un tout petit doute à ce sujet. Et certains disent, oui, il fait partie de l'original, et d'autres disent non. La fin de l'évangile de Marc a été déchirée, parce que vous savez que les livres étaient des rouleaux, et puis on déroulait le livre, en quelque sorte, et les parties les plus fragiles, c'est les extrémités, et donc on peut comprendre assez facilement que, suite à une manipulation un petit peu pas très soigneuse, le dernier bout s'est déchiré, qui contiendrait justement ces versets. Et que quelqu'un aurait pu rajouter, il se dit c'est quand même dommage d'avoir un évangile qui ne se termine pas entièrement, et il aurait rajouté un autre texte qui venait d'ailleurs. C'est une possibilité. Personnellement, je pense que ces versets faisaient partie de l'original, mais si quelqu'un ne croit pas cela, on ne peut pas le traiter d'hérétique, de sectaire, de personne qui ne croit pas dans l'inhérence de la Bible. N'est-ce pas? Ici, ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de transmission. Et je crois qu'à ce sujet-là, on doit être tolérant. Parce qu'alors, pour décider quelle est la bonne lecture, n'est-ce pas, quand il y a plusieurs lectures, il faut faire tout un travail qui est assez laborieux. D'une part, il faut tenir compte d'évidence interne, c'est-à-dire de voir si tel texte ou tel mot est en rapport avec l'auteur. Est-ce que l'auteur a l'habitude d'utiliser ce mot-là ou est-ce un mot étranger? Est-ce que la doctrine correspond un enseignement général de l'apôtre ou de la Bible. Donc il y a toutes sortes de questions internes qu'on doit poser au texte. Et ensuite, il y a des critères externes qui interviennent aussi, à savoir quel est le nombre et la qualité du manuscrit qui contiennent telle ou telle lecture. Donc c'est tout un travail que peuvent faire les spécialistes, en général dans un institut biblique, pour ceux qui apprennent le grec étant un cours facultatif, à la fin de la deuxième année, on les initie un petit peu à la critique textuelle pour qu'ils puissent déterminer quelle est la meilleure lecture quand il y a un problème textuel. Donc ce n'est pas si sorcier non plus que cela, mais ça demande quand même d'avoir, pour commencer, un texte grec qui contient ce qu'on appelle l'appareil critique, c'est-à-dire en bas de page, toutes les variantes que l'on a pu trouver.